janvier 1983, Rimont, Père Philippe.
On me demande de revenir un instant sur les versets 32 et 34, ce que je vous avais dit. Vous savez, vous voyez, chapitre 1er dans Saint Jean. Et Jean témoigna en disant, « J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe venant du ciel, et il est demeuré sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau, celui-là m'a dit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui l'élu de Dieu. » Alors, je vous disais la dernière fois qu'il fallait être attentif à ce parallélisme assez étonnant entre Abraham et Jean-Baptiste. Je crois qu'il faut creuser cela pour essayer de bien comprendre comment toute l'ancienne alliance, l'alliance avec le peuple d'Israël, commence avec Abraham, le père des croyants. Et elle s'achève avec Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste, le modèle de l'espérance eschatologique. L'un ouvre la maison, l'autre la ferme. Et vous avez au point de départ, ou du moins au cœur de toute la vie d'Abraham, la grande annonciation au chêne de Mamré, qui est comme la première théophanie trinitaire, qui reste énigmatique, c'est bien évident, ces trois jeunes gens qui sont un, mais que la tradition orientale a toujours considéré comme étant une première révélation de la très sainte Trinité, l'icône que nous aimons bien des trois. Et vous voyez que dans Jean-Baptiste, qui est au terme de l'Alliance, nous avons cette nouvelle théophanie trinitaire au moment du baptême. Jean ne souligne pas que c'est le baptême, mais c'est quand même le baptême. Et Jean témoigna en disant, j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe venant du ciel et il est demeuré sur lui. Donc, la révélation de l'Esprit sous ce symbolisme de la colombe. Jésus, le lien entre Jésus et l'Esprit Saint, et le lien avec le Père, l'élu de Dieu. Et moi, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui l'élu de Dieu, le oint de Dieu. Donc, il y a les trois qui sont présents. Jésus, l'Esprit et celui qui envoie, il est l'élu, il est l'envoyé. Alors on peut dire que nous sommes là en présence d'une théophanie, une manifestation de la très sainte Trinité qui achève tout l'Ancien Testament. À partir et dans la lumière de l'agneau. Vous avez donc la colombe, l'agneau et le Père. Et alors on voit comment l'agneau, c'est la miséricorde, ce que je vous avais dit la dernière fois. La colombe, c'est la douceur. Il y a comme un lien très fort, comme une révélation de la très sainte Trinité, à travers le mystère de la surabondance d'amour, qui est le point de vue de la miséricorde. Vous voyez, si la première révélation de la très sainte Trinité qui se fait au chêne de Mamré, et l'annonce d'une fécondité du Fils de la promesse. Ici, cette seconde, juste avant la grande révélation, cette seconde révélation de la très sainte Trinité est sous l'aspect, non pas premièrement de la fécondité, mais de l'amour surabondant, de la miséricorde. On peut dire que c'est la grande vision de la miséricorde de Dieu qui nous est donnée à travers l'agneau et à travers la colombe. cette miséricorde qui prend ce caractère particulier à travers Jésus. On peut encore, quand il s'agit de mieux comprendre le témoignage de Jean-Baptiste, parce que je crois que c'est ça qui est au cœur de tout ce témoignage de Jean-Baptiste, c'est vraiment la vision du Christ sur le mystère de l'agneau. Alors, je vous avais dit qu'il fallait regarder ce leitmotiv à travers toute l'Écriture et bien comprendre Abel qui offre les petits agneaux et leur graisse. Nous l'avons vu l'autre jour. Puis nous voyons Abraham qui doit offrir son fils. Et à la dernière minute, l'agneau. Mais normalement, c'était le fils qui était offert. Mais Abraham ne pouvait pas désigner à son fils où était l'agneau. C'est Jean-Baptiste. Il y a comme une espèce de dialogue entre les deux qui est assez étonnant. Le petit enfant qui pose la question, où est l'agneau ? Dieu y pourvoira. Et Jean-Baptiste répond, voici l'agneau de Dieu. C'est important parce que ça nous fait comprendre comment toute la révélation de l'Ancien Testament est vraiment comme l'attente de l'agneau. Par le point de vue de la foi, et au dernier lieu, par l'espérance. Mais quand saint Augustin nous dit que l'ancienne alliance, c'est avant tout la foi et l'espérance, à travers Abraham, à travers Jean-Baptiste, et que la nouvelle alliance, c'est avant tout l'amour, le mystère de l'agneau, qui apparaît. Et c'est vrai que la première révélation officielle qui nous est montrée de la nouvelle alliance, c'est à travers l'agneau. Ce n'est pas du tout comme cela que la première annonce de l'ancienne alliance. C'est vers la terre promise, c'est le mystère de la foi. Foi et obéissance. Abraham, c'est la foi et l'obéissance. Tandis qu'ici, c'est vraiment le mystère de l'agneau, donc le mystère de la surabondance de l'amour, la miséricorde. Et Isaïe entre deux, parce que Jean-Baptiste est très lié à Jean-Baptiste. Alors, il faut, je crois, saisir ce lien voulu par Dieu qui nous est montré entre ces deux extrêmes de l'ancienne alliance, la foi et l'espérance. Et l'espérance, dans ce qu'elle a de plus grand, l'espérance est liée à la miséricorde, hein. L'espérance s'appuie sur la miséricorde, comme vertu théologale. Elle s'appuie sur la toute-puissance miséricordieuse du Père. Et elle nous fait vivre de la miséricorde. C'est par l'espérance que nous vivons de la miséricorde. C'est l'espérance ne peut s'épanouir en nous que dans la mesure où nous appuyons sur la miséricorde. Parce qu'on sait très bien qu'il nous est promis quelque chose que nous sommes incapables par nous-mêmes d'atteindre. Mais la miséricorde de Dieu nous l'a promis. Et donc c'est la miséricorde de Dieu qu'il réalisera. C'est pas nous. C'est ça le propre de la miséricorde. C'est ça le propre de l'espérance, je veux dire. Alors on voit très bien comment l'ancienne alliance, c'est la foi en Abraham et en Jean-Baptiste, l'espérance, et le dépassement de la nouvelle alliance, qui est l'agneau. Alors il est bien évident que les trois vertus théologales existent dans l'Ancien Testament, comme dans la nouvelle alliance, mais il y a un ordre différent. On pourrait dire qu'on est dans l'ordre de la disposition, puisqu'on est encore dans l'ordre imparfait dans l'ancienne alliance. Alors on est dans l'ordre de la disposition. La foi et l'espérance conduisent à la charité. Tandis que dans la nouvelle alliance, c'est l'amour qui porte la foi et l'espérance. Et je crois que ça c'est très important pour bien saisir justement le point de vue profond de tout ce que l'évangile de saint Jean ne cessera de nous montrer. Nous avons le troisième moment maintenant, verset 35, c'est la vocation des apôtres. Alors, je vous avais dit, comprenez bien, ces trois premiers moments de l'évangile de saint Jean, le prologue, la charte de la contemplation, Jean-Baptiste le mystère de l'espérance eschatologique, et puis le choix des apôtres, c'est l'amour. Vous voyez que nous avons encore l'ordre de l'Ancien Testament, c'est très curieux du reste. La foi, l'espérance et l'amour. Et alors, le mystère du Christ qui vient à travers les apôtres va renverser cet ordre. Ce n'est pas le détruire du tout, mais le renverser. Dans la vie chrétienne, ce qui est premier, ce qui commande tout, c'est l'amour. Quand vous commencez à avoir des doutes sur la foi, faites des actes d'amour. Ne discutez pas sur la foi. Quand vous commencez à faiblir du côté de l'espérance, faites des actes d'amour. C'est l'amour qui nous permet d'augmenter, intensifier notre foi et notre espérance. C'est très important, ça. Parce que c'est vraiment pour aimer que nous croyons. Il n'y a pas d'autre motif. Et c'est pour aimer que nous espérons. Et donc, si on commence à être un tout petit peu attaqué dans l'ordre de l'espérance et dans l'ordre de la foi, il faut intensifier l'amour. Donc, intensifier notre regard sur le mystère de l'agneau. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là avec deux de ses disciples. Alors, je fais souligner... se tenait là. Marie se tient au pied de la croix. C'est important de voir les deux extrêmes de l'évangile de Saint Jean. C'est le même verbe. Et c'est intéressant de voir justement ce stabat. Il est tout à fait différent. Mais Jean souligne, voyez, ce qu'il y a d'anormal. Jean-Baptiste a découvert le mystère de l'agneau. Et il ne l'a pas suivi. Je ne dis pas que c'est à cause de ses disciples, mais parce que c'est sa vocation. Il doit rester au désert. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là. Mais on souligne avec deux de ses disciples. Alors ça, c'est très beau. La première visite de Jésus pour Jean-Baptiste, c'était quand Jean-Baptiste était seul. Jésus respecte la solitude de Jean-Baptiste et il l'aime. Et c'est en premier lieu à Jean-Baptiste qu'il l'a vu. Il est venu vers lui. Il a entendu le cri de l'enfant dans le désert. Et la seconde fois, c'est Jean-Baptiste avec ses disciples. Parce que c'est bien évident que Jésus sait qu'il rencontrera Jean-Baptiste seul, qu'il rencontrera Jean-Baptiste avec ses disciples. On peut être sûr, étant donné ce qu'est Jean-Baptiste comme permettre. Jean-Baptiste est le modèle des permettres, hein, faut pas l'oublier. Alors, Jean-Baptiste, on peut être sûr, a communiqué à ses disciples ce qui s'était passé. Ça me semble impossible autrement. La vision de l'agneau. Ça a dû être pour lui quelque chose de tellement fort comme expérience interne qu'on ne voit pas très bien comment Jean-Baptiste garde le silence. Il a dû le dire. Et alors, on voit, non pas cette répétition, ce n'est pas une répétition, mais cette seconde visite du Christ pour Jean-Baptiste en tant qu'il est le maître de ses disciples. Jean-Baptiste au milieu de ses disciples. Le lendemain, de nouveau, Jean se tenait là avec deux de ses disciples et regardant Jésus qui passait. Donc, l'extase de la veille a recommencé. Il est tout entier attiré vers Jésus, regardant Jésus qui passait. Ça, c'est merveilleux pour voir la contemplation de Jean-Baptiste. Il ne regarde que Jésus. Quand Jésus est là, il ne regarde que lui. C'est la même chose. Ce qui montre l'intensité. Vous voyez, le lendemain, il aperçoit Jésus qui venait vers lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, nous retrouvons ici, et regardant Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, de nouveau, il est saisi par cette expérience interne de la présence de l'agneau, et il proclame cette présence de l'agneau. Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. l'efficacité du témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne regarde pas ses disciples. Ça, c'est le propre d'un témoignage purement contemplatif. Un témoignage purement contemplatif est un témoignage qui fait qu'on ne regarde que Jésus. Et on proclame, voici l'agneau de Dieu, on proclame la présence de Jésus. Le contemplatif n'a pas d'autre témoignage que de donner le témoignage de la présence de Jésus. Son prophète, dans le sens le plus fort, c'est d'essayer de comprendre le mystère invisible à travers ce qui apparaît. C'est ça être prophète. Et prophète dans le sens de la nouvelle alliance, comme il est dit dans l'Apocalypse, c'est justement être témoin de Jésus. C'est donc, à travers le visible, montrer l'invisible. Montrer à travers Jésus, qu'on sait qui il est le fils de Joseph et de Marie, de Nazareth. Montrer quelque chose qu'on ne sait pas, le mystère de l'agneau. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Alors, l'efficacité du témoignage de Jean-Baptiste, voyez la différence, hein ? On nous a montré la non-efficacité du témoignage de Jean-Baptiste à l'égard des Lévites et des prêtres. Et combien cela avait dû être dur pour Jean-Baptiste. En face de ces Lévites et ces prêtres, le témoignage de Jean-Baptiste n'a pas porté. Et Jean-Baptiste a eu cette souffrance. La souffrance la plus dure pour l'apôtre, quand il voit que, de fait, son témoignage ne porte pas. Ici, au contraire, on voit l'efficacité de ce témoignage. Et l'efficacité de ce témoignage est d'autant plus éloquent que Jean-Baptiste, en témoignant du mystère, accepte d'être dépouillé de sa seule richesse. La seule richesse de ce pauvre, c'est d'avoir des disciples. Et la seule chose que Jésus fait en venant auprès de lui, c'est de lui prendre ses disciples. Ça, c'est une chose étonnante. Et ceci pour montrer à Jean-Baptiste sa confiance. Le passage de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance se fait officiellement auprès de Jean-Baptiste et se fait à partir des disciples de Jean-Baptiste. Vous savez bien, quand on commence une œuvre nouvelle, quand on est père maître de quelque chose qui doit commencer, d'une nouvelle maison, on aime bien d'avoir des novices qui ne sont pas passés par d'autres mains. Parce que c'est vrai, ils ont une fraîcheur unique. Quand ils ont passé par d'autres mains, on fait toujours des comparaisons. Ah, vous ne faites pas tout à fait comme ça. L'autre faisait comment ? Autrement. Alors, c'est pas très agréable, hein, parce que c'est une perte de temps. Ce qui est extraordinaire de la part de Jésus, c'est que Jésus, lui, il ouvre une maison, l'Église. Et une fameuse maison, qui sera universelle, et qui sera radicale, qui est la dernière. Personne ne la fermera si ce n'est le retour du Christ. Il n'y aura pas un nouveau Jean-Baptiste qui viendra fermer la maison en disant il en faut une autre. Non, c'est la dernière, l'Église. C'est la dernière maison que Dieu installe sur la terre. Et Jésus, au point de départ de l'installation de sa maison, Jésus prend comme premier disciple des disciples de Jean-Baptiste. Ceci pour faire comprendre à Jean-Baptiste toute la confiance qu'il a en lui. Vous ne pouvez pas témoigner à Jean-Baptiste plus de confiance. Et en même temps, il l'appauvrit, puisque c'est sûrement les deux disciples que Jean-Baptiste aimait le mieux plus. Ça, j'en suis sûr. C'était les deux confidents de Jean-Baptiste. Hein, les deux confidents de Jean-Baptiste, à qui Jean-Baptiste avait sans doute dit cette expérience étonnante de la veille. Et ce sont ces deux-là qui reçoivent. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Ils sont merveilleux, ces disciples. Jean-Baptiste est là pour l'attente du Messie. Et donc, quand le Messie est là, Jean-Baptiste disparaît. Et Jean-Baptiste disparaît aux yeux même de ses disciples.
Et c'est là où il les a bien éduqués. Ces disciples n'ont pas eu une hésitation en disant « Avec qui ? Faut-il le suivre ? Faut-il pas le suivre ? Faut-il un ?» Il aurait demandé une discussion. On voit très bien cela. Non. Ils sont parfaitement éduqués dans la pauvreté de Jean-Baptiste. Et dès qu'ils rencontrent l'agneau, ils quittent Jean-Baptiste. Ils n'ont même pas souligné qu'ils lui disent au revoir. C'est très étonnant. Et c'est quand même Jean qui raconte ça, hein. C'est Jean qui l'a vécu, cela, et qui sait très bien comment ça s'est passé. C'est quelque chose d'unique, ça, le passage de Jean-Baptiste à Jésus. Jean-Baptiste, c'est le plus grand des prophètes de l'Ancienne Alliance. Et Jean-Baptiste a deux disciples qu'il aime, Jean et André. Et quand Jésus est là, il offre ses deux disciples. Et il coopère à cette offrande. Parce qu'il a dû dire ça avec un accent particulier. Il faut demander au Saint-Esprit l'accent. La manière dont Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu » dans ce témoignage de Jean-Baptiste. Et les deux disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau comme témoignage contemplatif. Dans la pauvreté la plus absolue. Il témoigne de la présence de Jésus dans une totale pauvreté. Il se dépouille en témoignant. Chaque fois que nous témoignons du Christ, nous nous dépouillons. Si c'est un vrai témoignage, si ce n'est pas un vrai témoignage, on ne se dépouille pas, on s'enrichit. Tandis que si c'est un vrai témoignage, on s'appauvrit. Et on s'appauvrit de ce qu'on a de plus cher. On s'appauvrit de ce qu'on a de plus cher et on le donne à Jésus. C'est là la grandeur de Jean-Baptiste. Et là, elle nous est montrée d'une manière étonnante. Les deux disciples l'entendirent parler, ils suivirent Jésus. C'est dit d'une simplicité. Saint Augustin dit, nous sommes là en présence du premier moment de la vocation chrétienne. Suivre Jésus. Suivre Jésus comme l'agneau. Mais ce qui est dit dans l'Apocalypse, vous savez, la Vierge, c'est celle qui suit l'agneau partout où il va. Ça, c'est la plus belle définition de la virginité. La Vierge, c'est celle qui suit l'agneau partout où il va. La virginité du cœur consiste à suivre l'agneau partout où il va. Le suivre, c'est-à-dire être lié à lui et entrer dans son rythme. Parce que quand on suivait quelqu'un, vous dites « Ah, tu marches trop vite, je ne peux pas arriver. » Non, non, non. Vous vous mettez à son rythme. Quand on marche avec quelqu'un, on peut lui dire « un petit peu. » Non, vous suivez quelqu'un. Et c'est ça l'esprit de virginité. C'est de se mettre au rythme du Christ. C'est de plus avoir son propre rythme à soi. C'est un peu essoufflant, quelquefois. Mais c'est le rythme même de l'agneau. C'est le rythme du Christ. Suivre l'agneau. Partout où il va. Donc jusqu'à la croix. Jusqu'au sépulcre, pour entrer dans la gloire, parce qu'on suit aussi dans la gloire. Alors ça fait partie de suivre l'agneau partout où il va. Donc voyez à la fois la délicatesse de Jésus pour Jean-Baptiste, la pauvreté de Jean-Baptiste et la docilité des disciples de Jean-Baptiste. Tout ça nous est montré dans ce premier moment de la vocation des deux. Ils suivirent Jésus. Mais se retournant et les voyant qui le suivaient, Jésus leur dit, « Que cherchez-vous ? » Alors ça, c'est aussi très fort. Parce que on voit que Jésus va se retourner. C'est normal. Quand on sent quelqu'un qui vous suit, on se retourne. Et Jésus n'a pas besoin de se retourner pour savoir qu'on le suit. Mais il se retourne. C'est à ce moment-là où il y a le premier contact direct. Quand on suit quelqu'un, on le suit sur le témoignage de quelqu'un. Oui, c'est bien ça que vous devez faire. Alors on suit. C'est un acte de foi très héroïque, parce qu'on n'a pas d'expérience et on s'appuie uniquement sur le témoignage de l'autre. Tandis que quand il y a un regard, il y a une expérience. Et cette expérience va se compléter par l'interrogation du Christ. Que cherchez-vous ? Il lui dit, Rabbi, mot qui veut dire maître, où demeures-tu ? Alors, tout de suite, la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est de demeurer avec l'agneau. Suivre pour demeurer. Suivre, c'est la foi et l'espérance. Demeurer, c'est l'amour. Rabbi, où demeures-tu ? Alors, on voit là la soif de ces novices. De ces novices pauvres, de ces novices qui ont été bien, bien éduqués par Jean-Baptiste. Alors, ils vont tout de suite au cœur. Ils vont tout de suite à la chose principale. Jean-Baptiste, lui, précurseur, attendait le Messie. Et les disciples de Jean-Baptiste savent très bien que le propre de la nouvelle alliance, le Verbe est devenu chair, il a demeuré parmi nous. Vous l'avez dans le prologue, et vous le trouvez ici, dans l'expérience de ces deux premiers disciples. Ces deux premiers disciples, quand ils suivent Jésus, quand ils suivent l'agneau, ils le font sous la mouvance de l'Esprit Saint. Et quand Jésus, sous la mouvance de l'Esprit Saint, leur pose cette question, « Qui cherchez-vous ? » ou « Que cherchez-vous ? » La réponse des deux est aussi sous la mouvance de l'Esprit Saint. « Rabbi, où demeures-tu ? » Il lui dit, « Venez et vous verrez. » Ça se fait très vite. Il n'y a pas de postulat pour attendre, vous voyez. Il n'y a pas d'enquête canonique. C'est d'une façon extraordinaire que se fait cette rencontre. Elle se fait par une expérience directe. Venez et vous verrez. Je crois ça très important, parce que c'est cette expérience directe qui sont les liens de la charité. Une vocation se noue dans la charité. Elle se noue donc dans le point de vue des liens directs, personne à personne. Alors si on doit faire une enquête canonique, il faut respecter le droit canon, c'est bien évident. Mais ce n'est jamais sur une enquête canonique qu'on décide une vocation. Parce qu'autrement, vous voyez le pauvre type qui aurait ça sur le dos jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'il a raté une fois, alors jusqu'à la fin de sa vie, c'est fini. Non, c'est jamais fini avec la grâce. Parce que c'est tout le temps à reprendre. Et c'est toujours à reprendre dans la charité. C'est ça qu'on oublie trop, que le propre de la vie chrétienne, c'est le mystère de la charité. Et la charité, c'est le feu qui reprend tout, et qui reprend toujours tout, à la racine, à la base. Et c'est cela qui donne justement cette confiance particulière, qui donne cette espérance particulière. Et ici, c'est dit admirablement, hein, c'est beau de voir ce premier moment de la vocation chrétienne, parce que c'est le premier moment de la vocation chrétienne. Et pour nous, à Saint-Jean, vous voyez, ça prend une signification particulière. Hein. Nous aimons ce texte parce que nous le relisons chaque fois que, de fait, il y a un lien particulier qui se fait. Venez et vous verrez. Ils vinrent donc et virent où ils demeuraient. Ils demeurèrent chez lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Jean a regardé sa montre, hein. Il a regardé le soleil. C'était suffisant. C'est très beau, ça. Ils vinrent donc et virent où il demeurait. Il demeurait chez lui ce jour-là. Donc, premier moment de la vocation, découvrir l'agneau. Et découvrir la présence de l'agneau. Et demeurer auprès de l'agneau. C'est cela qui caractérise la vie chrétienne. Vous voyez, pour le traité de la grâce qu'on voyait ce matin, pour ceux qui le suivaient, on voit ici admirablement ce que saint Thomas dit, lui, par mode de théologien, et toujours, toute donnée théologique, de l'analyse théologique, doit être utilisée pour une lecture en profondeur de l'Écriture. Parce que la théologie vient de la foi et elle remonte à la foi. Alors vous voyez bien, premier moment de la grâce, témoignage de Jean-Baptiste. Ça, c'est merveilleux. Et ça arrive souvent dans notre vie. On rencontre des témoins. Évidemment, rencontrer comme témoin Jean-Baptiste, ça ne court pas toujours toutes les rues, n'est-ce pas ? C'est un charismatique de premier ordre. C'est un bon berger, comme on dirait aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est un berger de premier ordre, Jean-Baptiste. Pas commode. Sûrement pas. Sûrement pas commode. Il devait être d'une très grande douceur, mais d'une force. Voici l'agneau de Dieu. Donc, il y a le témoignage de Jean-Baptiste. Le témoignage de Jean-Baptiste, c'est une motion de grâce. Ça passe à travers le témoignage de Jean-Baptiste. La réponse, qui est une initiative que Dieu attend de nous. Dieu attend nos initiatives. Il les attend. L'entendant parler, ils suivirent Jésus. Et cette initiative est une initiative qui se fait dans le silence. Mais c'est le premier pas à la suite de Jésus. Et puis tout se termine, demeurez. Ça, c'est la grâce habituelle. Par la grâce habituelle, nous demeurons en Dieu et Dieu demeure en nous. Et c'est tout le mystère de la grâce habituelle. Vous voyez, comme c'est admirable comme manière de montrer ce qu'il y a de tout à fait nouveau dans la nouvelle alliance. Il faudrait comparer avec la vocation d'Abraham. La vocation d'Abraham sort de tout ce qui était comme naturel et va vers la terre de Canaan. Il faut sortir et obéir et partir sur la route. La nouvelle alliance, découvrir dans une intériorité d'amour la présence de celui qui demeure. L'intériorité d'amour. L'obéissance ne suffit plus. Il faut l'obéissance au Saint-Esprit. Et l'obéissance au Saint-Esprit, ça consiste à écouter le témoignage de Jean-Baptiste. Donc on écoute le Père Maître, vous voyez bien. On écoute le témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Alors, on l'écoute, on répond à cela. Donc, il y a une obéissance. Mais l'obéissance est dépassée par l'amour. L'amour est avant l'obéissance, l'amour est après l'obéissance. On demeure. C'est tout le mystère de la vie chrétienne qui est là, représenté à travers ces deux disciples de Jean-Baptiste. Et c'est d'autant plus beau, vous voyez, qu'on voit là la continuité avec l'ancienne alliance. Il y a une continuité, ce sont les mêmes disciples, ceux de Jean-Baptiste et ceux de Jésus. Mais en même temps, la discontinuité, c'est une des choses très importantes à souligner cela, à travers Luc et à travers Jean. La continuité et la discontinuité de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Pour bien comprendre, ça nous le verrons progressivement, pour bien comprendre ce qu'il y a d'unique dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas seulement achever l'ancienne, c'est une reprise totale à l'égard de l'ancienne. Au sens très très fort, c'est une reprise totale. C'est pas seulement l'achèvement. Le Christ, c'est pas seulement l'achèvement de la loi. Un prophète aurait pu être l'achèvement de la loi. Mais le Christ est fils de Dieu. S'il est fils de Dieu, c'est une reprise radicale de tout. Alors, ça nous est montré dès le point de départ ici. Il y a une continuité, mais il y a une reprise radicale. Et voyez, pour Jean-Baptiste, ce que ça représente pour Jean-Baptiste, de voir ses deux disciples le quitter, les deux meilleurs, le quitter et lui rester au désert. la vocation de Jean-Baptiste consiste à rester au désert. Oui, la vocation, c'est d'accomplir pleinement la volonté du Père. Quand on regarde une vocation de façon extérieure, qu'on veut copier, ça ne va plus du tout. Jean aurait pu se mettre à copier les deux autres, hein, en disant, ils s'en vont, ils ont bien raison, laissons-les au désert, les autres, et puis nous, nous avons compris, une fois que l'agneau est là, on n'a plus besoin de rester là au désert. Quand l'agneau et l'époux est là, on n'a plus besoin de rester au désert, il suffit d'être avec lui. Et Jean-Baptiste doit rester au désert. Là, la fidélité de Jean-Baptiste, hein, c'est quelque chose de très très grand. D'accepter d'être dépouillé de ses deux disciples, vraiment d'être dépouillé, il les offre à Jésus. Et il les offre complètement, il n'a aucun droit sur eux. Il les offre entièrement. Accepter d'être dépouillé de ses deux disciples et de continuer de rester seul. Voyez, une nouvelle pauvreté de Jean-Baptiste. Voyez, toutes les pauvretés de Jean-Baptiste, hein, il faut les souligner. Parce que c'est l'homme qui nous montre les pauvretés. C'est pas étonnant, c'est l'homme de l'espérance. Donc c'est l'homme de la pauvreté. Ça va toujours ensemble. On ne peut progresser dans l'espérance que si on accepte de progresser dans la pauvreté. Alors quand on progresse dans la pauvreté, on progresse dans l'espérance. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et suivi Jésus. Le premier, on n'en parle plus, hein, c'est ça qui est très très beau. Il demeure auprès de Jésus, plus besoin d'en parler. Il est perdu en Jésus. C'est très beau parce que c'est ça le propre de l'amour. Hein. Le propre de l'amour fait que l'ami n'a pas d'autre nom que son ami. Il est perdu en lui. Il demeure en lui. Il est perdu en lui. Et c'est bien Jean. Je sais très bien qu'on discute aujourd'hui, on dit est-ce que c'est Jean, c'est pas Jean. Toute la tradition l'a compris comme ça. Je ne sais pas si on est plus intelligent aujourd'hui pour comprendre que ce n'est pas Jean, mais c'est toute la tradition qu'elle a compris comme ça. Et puis c'est Jean qui nous raconte ça. Alors on comprend très bien. Il a gardé le souvenir de ce premier moment, cette première rencontre. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu Jean et suivi Jésus. Vous voyez, le caractère d'André, c'était l'un des deux. Donc il y a toujours l'autre qui est présent. Hein. Quand on dit l'un des deux, ça veut dire que l'autre est présent. Et donc Jean pense à l'autre. C'est bien évident. Non, c'est l'un des deux qui avait entendu Jean et suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie. » Alors là, voyez bien. André a découvert Jésus. Il est demeuré auprès de lui. Et il devient témoin. Mais comme le témoignage est lié à la vocation chrétienne. Indissolublement lié. C'est ce que reprend Paul VI hein, dans l'exhortation apostolique. Il reprend ce qui est tout à fait typique à l'évangile de Jean. De voir que la vocation chrétienne implique le témoignage. Alors, des modalités différentes, hein. Le témoignage du contemplatif, le témoignage de l'apôtre. Et ici, on voit bien, André, c'est l'apôtre. Hein. Son témoignage est tout à fait différent de celui de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il ne regarde que Jésus qui passe. Voici l'agneau de Dieu. Jésus n'est pas présent ici. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. On voit très bien, il s'adresse à André. C'est un témoignage très différent. Il donne son expérience et il s'adresse à André. Alors que le témoignage du contemplatif, c'est de regarder uniquement la présence de l'agneau, sans s'occuper des autres. Nous avons trouvé le Messie, l'expérience qu'il a fait, ce qui veut dire Christ. Il l'amena Jésus. Ça aussi, c'est très significatif. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'emmener ses disciples pour qu'ils suivent Jésus. Le témoignage de Jean-Baptiste, dans toute sa pureté, était suffisant. Il était efficace. Tandis que le témoignage d'André n'est pas suffisant. Parce que Pierre, sans doute, il a de la peine à s'éveiller le matin. Ça existe, ça. Il a de la peine. Alors, il faut l'emmener. Vous voyez bien, hein? Ça fait partie de la charité fraternelle, il faut l'emmener. Ça fait partie du témoignage. De temps en temps, il faut donner un petit coup de pouce. Il faut l'emmener, le geste. Il y a la parole et le geste. Nous avons trouvé le Messie. Il l'emmena à Jésus. On voit très bien ça. Pierre est plus âgé qu'André. Puis Pierre, il n'est pas disciple de Jean-Baptiste, il a une belle-mère. Comment voulez-vous que je dise ? C'est absolument impossible. Donc, il n'a pas la même légèreté. Il faut bien voir. Tandis que André, il est libre. Alors, quand on est libre, on peut recevoir un témoignage. Tandis que l'autre, non, c'est sûr. C'est beaucoup plus difficile. Alors, il l'emmena à Jésus. Le regardant, Jésus dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas. » Ce qui veut dire Pierre. Alors, vous voyez, là encore, le témoignage d'André n'est pas suffisant. Il faut le regard du Christ qui vient compléter. C'est normal, c'est normal que c'est toujours Jésus, mais il faut un complément au témoignage de l'apôtre. Il faut que Jésus soit là. Le témoignage d'André n'était pas suffisant pour que, de fait, alors Jésus est là pour compléter. Alors nous avons là cette vocation de Pierre, de Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui signifie Pierre. Vous voyez là encore, et je souligne, ce n'est pas Jésus qui a choisi directement. Les deux premiers ont été choisis par Jean-Baptiste. Bien sûr, ils ont été choisis par Jean-Baptiste, ils étaient disciples de Jean-Baptiste. Et le troisième est choisi par Pierre, est choisi par André. C'est André qui l'a choisi. C'est un népotisme de premier rang, puisque c'est son frère. C'est comme ça dans les communautés, vous savez, quand il y en a un qui entre, il y a le petit dernier qui entre après, n'est-ce pas ? Alors on voit très bien le petit Képhas qui suit, n'est-ce pas ? Et André, mais là c'est l'inverse, puisque Képhas est plus âgé. Ça arrive de temps en temps, ça dépend des fois. Ça. Quelquefois c'est l'aîné qui entraîne le cadet, quelquefois c'est le cadet qui entraîne l'aîné. Mais c'est beau de voir ça, de voir que le Seigneur va tout de suite se servir de lien, de parenté, pour exprimer son choix d'amour. Mais ce qui est aussi très important, c'est de voir l'importance du témoignage dans une vocation. Le témoignage fait partie de la vocation. On est témoin, le Christ compte sur nous, on est des témoins. Et alors, comme témoin, nécessairement, on doit amener à Jésus. Le lendemain, Jésus voulut partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit, suis-moi. Ah, c'est la première fois où Jésus a choisi directement. Il a choisi directement, c'est Philippe. Il est choisi directement. Ça, c'est le privilège de Philippe. Il n'y a pas d'intermédiaire, vous voyez. Aucun intermédiaire, c'est la gratuité pure, là. Ça ne veut pas dire que pour les autres, ce n'était pas la gratuité. Mais la gratuité, ici, est manifestée d'une façon tout à fait spéciale. Il trouve Philippe, il lui dit, suis-moi. Il lui donne un ordre. C'est la première fois. Jusque-là, il n'y a pas d'ordre. Au sens absolu, il n'y a pas de commandement. Il y a simplement... Que cherchez-vous ? Et ça met en lumière, d'autant plus, vous voyez, quand vous regardez la diversité de ces rencontres avec Jésus, vous comprenez mieux leur caractère propre vis-à-vis de Jean et d'André. Jésus demande, que cherchez-vous ? Qu'est-ce que vous désirez ? Il leur demande d'exprimer leur désir, le désir de leur cœur. Tandis que lorsqu'il s'agit de Philippe, il ne lui demande pas du tout le désir de son cœur. Il dit, suis-moi, impératif. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre, là on souligne encore, c'est évident, ça c'est pour les psychologues, n'est-ce pas ? Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Parce que les psychologues diraient, voyez, c'est pas étonnant qu'il a la vocation, il est de la même ville qu'André et de Pierre. Alors ça s'explique, Vous savez, quand il y a trois vocations dans le même patelin, ben, tout s'explique. Ce n'est pas surnaturel, c'est pas étonnant. C'est la contagion, ça. Comme dans une famille, quand il y en a plusieurs. Non. ni la chair ni le sang, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est joli de voir ça, parce que ça fait partie de la prédestination, c'est bien évident. Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe, il fait exactement comme André, mais il l'imite pas. Mais il fait exactement, il a découvert le Christ, il devient témoin. Mais son témoignage est beaucoup plus difficile, parce que ce n'est pas à l'égard de son frère. À l'égard d'un frère, on peut y aller. Il l'emmena, on voit très bien, après avoir dit, nous avons trouvé. Vous voyez, c'est un petit frère, on lui dit, viens, viens, voir, tu verras, c'est bien pour toi, j'en suis sûr. Alors on peut le dire de cette manière-là, on peut y aller carrément. Hein, parce qu'entre frères, on peut y aller carrément. Tandis qu'ici, il va rencontrer Nathanaël. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Je m'arrête. »
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.